Donc tu disais qu'il y a
énormément de demandes pour ces HBM.
Mais il y a trop peu de HBM.
Une immense demande de HBM. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces HBM, ils ont été construits dans les années 50-60 par des fondations semi-publiques. Au départ, il y avait des donateurs et puis l'État aidait beaucoup. Il donnait des terrains, qui étaient des terrains, attention, juste à côté d'une autoroute qui allait se construire et comme ça. Mais c'était quand même des terrains très bon marché, ce qui faisait des loyers très bon marché. Alors, ce type-là de réalisation, comme par hasard, s'est complètement arrêté il y a une dizaine d'années, au moment de la crise qui a touché par contre-coup le logement très très vite, en 74. Et il n'y a plus, aucune réalisation qui se fait de logement bon marché, et il n'y a plus aucun projet. Les seuls projets de HBM qui existent ou qui sont encore un petit peu en cours, c'est des projets de petits logements pour des personnes âgées avec des encadrements médicaux, médico-sociaux, mais plus du tout simplement des logements bon marché pour familles pauvres. Simplement, on pense même plus à ce concept parce qu'il est irréalisable. Alors, la deuxième catégorie de logements bon marché, c'était les logements de la ville de Genève, parce que la ville de Genève a quand même un parc de logements important avec des prix sociaux, puisqu'elle calcule les loyers en fonction du revenu des gens. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ville de Genève? D'une part, la politique de construction de la ville elle était moins sociale. Son orientation est devenue moins sociale. Ils se sont intéressés à des constructions plus moyennes. Ils ont dépensé beaucoup parce que le coût de la construction a énormément augmenté. Alors réapparaît maintenant la réglementation comme quoi on ne peut pas payer plus que 60. On doit payer comme loyer quand même le 60% de la valeur du logement. Et alors, à ce moment-là, ça veut dire que les revenus très pauvres ou les ménages très pauvres, à faible revenu, ils n'arrivent pas à correspondre à un prix de loyer qu'ils devraient payer qui serait 60% de la valeur du logement. Ce qui fait qu'on les élimine de ce fait-là. Et alors, on substitue à cette politique qui était plus sociale, disons quand même qui était sociale, la politique de dire, écoutez, les logements, c'est 15% du revenu. On dit, ouais, mais maintenant, on va faire une aide à la personne. C'est-à-dire que les ménages vraiment qui sont dans le besoin, on va les aider individuellement à payer leur loyer qui devra quand même correspondre à 60% de la valeur du logement. Alors en individualisant de cette façon l'aide, on entre dans un processus de discrimination et d'étiquetage qui à long terme est dangereux. Et puis de toute façon, on diminue l'accès des bas revenus aux immeubles de la ville. Alors sur le plan des logements de la ville de Genève, aussi, il y a une diminution de prestations en faveur des bas revenus. Et puis ensuite, il y avait le troisième volet des logements des pauvres à Genève, c'était les logements d'urgence. Alors c'était le Val d'Arve, que tout le monde connaît un petit peu, en face du bureau des autos, il y avait ces cités, c'est cette cité avec des toutes petites maisons, des pavillons au milieu des jardins. Ça, c'était vraiment des logements relativement précaires. Et il y a eu un consensus pour les supprimer, avec très très peu de bagarres pour les défendre, alors même que les gens qui y sont très heureux d'y être. Mais il y a eu une fois une crue de larves qui a tué quelqu'un, parce qu'il y avait une personne qui s'était fait aménager quelque chose dans sa cave, enfin creusant relativement sous son pavillon, et au moment de la crue de larves, il a été pris dans cette crue et il est mort. Alors évidemment, quand il y a un mort, on peut dire c'est insalubre, c'est mal fichu, c'est dangereux, il faut supprimer. Alors ça tombait très bien, parce que la ville de Carouge voulait retrouver ce terrain, elle voulait retrouver ce terrain pour des installations sportives, donc personne ne tenait à cette cité du Val d'Arve. Alors, sur les 250 ou 300 logements d'urgence qu'il y avait il y a encore 10 ans, maintenant, il en reste 25. Il y a 25 logements d'urgence dans tout Genève. Donc, on peut dire que cette catégorie-là aussi, elle est complètement supprimée. Donc, résultat de tout ça, il n'y a plus de logements pour les bas revenus et on fait comme s'il n'y avait plus de bas revenus à Genève, parce qu'il n'y a plus personne qui ose dire, voyons, quelle est la politique de logements pour les bas revenus qu'on pourrait bien avoir à Genève. On n'ose plus poser cette question, tellement le coût de construction a augmenté. Et ça veut dire que les bas revenus en ce moment sont ignorés et maltraités et pas traités et pas pris en considération. C'est un pur scandale.
Mmh. Alors vous, toi et l'équipe avec qui tu as travaillé, vous avez trouvé une nécessité HBM. Et c'est là-dessus que vous avez porté votre enquête.
Alors voilà, le livre lui-même, il porte sur des interviews de personnes qui ont été réalisées.
Je voudrais tout de suite que tu précises quelque chose. Tu parles de pauvres, tu as parlé du barème fixé par les HBM pour la pauvreté, c'est 30 000 francs par an. Qu'est-ce que toi, tu entends par pauvre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un barème de fric?
Ouh là là, ce que moi j'entends par pauvre.
Qu'est-ce que tu as entendu dans ton livre, quoi? Parlons de ton livre.
Ouais, mon livre, c'est vraiment une toute petite partie du boulot à faire. Parce que qu'est-ce qu'on a fait là? On a voulu une fois sortir grâce à l'aide des éditions d'en bas qui y croyaient. On s'est dit, on sort ce qu'on a fait. Mais on a très très peu fait. La connaissance vraiment du milieu des pauvres et des bas revenus et du bas de l'échelle dans un pays comme le nôtre, elle est encore à fabriquer. Mmh. Parce que ouais, c'est les gens, ce seront les derniers à s'exprimer, ce seront les derniers à être acteurs sociaux, ce seront les derniers à faire un discours à la première personne. Bon, peut-être qu'il faut attendre qu'ils le fassent, ça c'est une des solutions, c'est-à-dire quand ça apparaît, il faut être prêt à peut-être commenter et tout. Mais je veux dire, de faire une réflexion sur le concept même de pauvreté, puis comment le définir en Suisse. En ce moment, moi, j'estime pas avoir fait le tour du sujet. Alors, ce que j'ai fait pour le dépiauter, c'est que j'ai dit deux ou trois choses. J'ai quand même rassemblé un peu la littérature qui existait. Et puis
j'ai... Tu as quand même travaillé sur l'adéquation, bas revenu, c'est égal pauvre, ou plutôt pauvre égale bas revenu.
Moi, ça me dérange pas de dire comme ça, parce que ce qu'il y a, c'est que la situation même de pauvreté, c'est une conjonction de facteurs. Alors le revenu il joue un rôle, mais évidemment qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. En général, on parle en même temps des conditions précaires d'habitat, en même temps de problèmes de santé qui viennent toujours se rajouter très vite, et d'un avenir compromis des enfants, c'est-à-dire d'une beaucoup plus faible mobilité sociale de la deuxième génération que, par exemple, dans d'autres couches sociales. Quoi. Donc d'une précarité au niveau à la fois social, politique, idéologique et économique. Des déterminations au fond de couches sociales qui touchent toute la vie, y compris la vie quotidienne, y compris le corps, y compris ce qui se passe dans la tête des gens, la mentalité, c'est un ensemble. Mmh. Alors à part ça, le phénomène lui-même de nouveaux pauvres, on parle de nouveaux pauvres, ça revient à la mode avec la crise, parce que moi j'ai toujours su qu'il y avait un bas de l'échelle, je m'y suis intéressée, je trouve que ça vaut la peine d'y aller voir parce que les gens, ils ont des choses à nous dire, ils ont des choses à nous raconter. Si on a envie de lire l'histoire de ces gens, si on veut bien s'intéresser un moment à lire l'histoire de ces gens, on la trouve tout aussi intéressante que, je ne sais pas, moi, celle que les histoires petites bourgeoises qu'on voit sans arrêt dans les journaux ou bien dans la grande presse. C'est tout aussi important ce qu'ils racontent, c'est tout aussi fort ce qu'ils vivent. Mais bon, c'est moins mis en roman, c'est moins mis en film, c'est moins mis en vedette. Donc pour moi, c'est important de sentir les choses au niveau du bas de l'échelle et puis de les transmettre et puis d'en faire ça, de les passer de transmettre le message. Mais en même temps, c'est juste maintenant, il y a une mode qui dit « Ah, mais il y a les nouveaux pauvres ». Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, les effets de la crise maintenant se font suffisamment sentir, sont suffisamment forts pour qu'évidemment, il y ait une partie de la classe ouvrière qui se fasse éjecter, qui se fasse avoir par la crise. Donc qui se fasse, remarquer. Elle se fait remarquer parce qu'elle se fait exclure. Alors tout d'un coup, on a des chômeurs qui arrivent au bout de leurs indemnités de chômage et puis qui ne retrouvent plus rien, mais ils n'ont plus de statut. C'est des mauvais chômeurs implaçables, marqués implaçables dans les dossiers. Ou bien à l'AI, vous avez des dossiers qui, qui deviennent, enfin, il y a une augmentation des dossiers AI parce que les gens n'ont pas pu se réintégrer après des problèmes de santé. Pourquoi ? On sait bien que c'est à cause de la crise. Mmh. Alors vous avez comme ça des catégories de population, des clochards aussi qui réapparaissent, ou bien les jeunes. Qui recommencent à apparaître comme jeunes chômeurs, alors que jusqu'à présent, ils étaient un peu noyés, dans travailleurs précaires, on ne les voyait pas trop. Ils vont réapparaître comme jeunes chômeurs parce qu'ils vont se faire foutre dehors de l'appareil économique, de l'emploi habituel. Et on va dire, oh, regardez-moi ces jeunes, ça ne va pas, ils vont encore faire des crasses, il faut s'occuper d'eux. Mais bon, c'est donc des catégories qui ressortent avec la crise et dont on reparle. Alors ça, c'est les nouveaux pauvres. Mais d'où ils viennent, ces gens? Ils viennent évidemment des basses couches qui existent en temps de crise et en temps de non-crise, qui sont toujours là, le bas de l'échelle silencieux.
Without a word of warning, the blues walked in this morning and circled around my lonely room. I didn't know why that sad and lonely feeling until my baby call and said we're through. Ooh. Ooh. Oh, yesterday this time I sang a love song, but today I'm singing the blues. Strikes me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. Out on the losing end in every other love affair. Yes, it must be written for me that I should be the one to always lose.
Marie-Jo Glardon, qui a donc écrit Les pauvres dans la ville, qui nous parle sur Radio Pleine Lune ce soir. Alors, ton livre est construit principalement sur une série d'interviews de ces familles ou de ces individus pauvres de Genève. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire qui t'a frappée ou qui est particulièrement frappante de ces vies, de ces trajectoires de bas d'échelle?
Oui, j'hésite parce que c'est pas facile. Au fond, il y a une quinzaine d'interviews ou de situations familiales qui sont présentées avec des moments très difficiles, quoi, des moments terribles. Ils ont tous passé par des moments terribles et puis ils en parlent avec beaucoup, beaucoup de pudeur et de retenue parce que c'est une question de dignité, de nouveau. Je pense que il s'agit pas pour eux de se plaindre ni d'en rajouter. C'est des gens d'une très grande dignité. Et nous, vis-à-vis de nous, il n'y a pas non plus d'enjeu de recevoir de l'aide. On n'est pas des assistants sociaux, on n'est pas des fonctionnaires. On arrive donc là d'une façon assez gratuite. On demande d'une façon gratuite à ces gens de nous raconter leur vie. Mais au fond, au nom de quoi ils le feraient aussi, il y a une certaine retenue comme ça. Et quelquefois, ils racontent des choses horribles. Par exemple, il y en a un qui raconte comment il a dû vivre pendant 10 ans dans des studios extrêmement à l'étroit. Parce que d'abord, il vient un premier enfant, et puis ensuite, il vient au couple de jumeaux. Alors, il se retrouve donc avec 3 enfants et un couple avec 3 enfants, une conciergerie à tenir, et puis une pièce et une cuisine pour habiter. Et comme ils sont italiens, ils n'ont pas droit à un logement social, hein, parce qu'il fallait à ce moment-là être là depuis 10 ans à Genève pour avoir droit à un logement social. Donc ils n'ont aucune perspective. Et puis lui, il est complètement furieux du deuxième enfant, ça j'ai compris. Il l'a eu dit après que c'était très dur, cette deuxième grossesse, c'était vraiment l'accident, c'était la tuile. Et bref, il y a un des deux jumeaux qui meurt. Il meurt comme ça. Et puis bon, c'est sans commentaire. Alors au fil de l'entretien, je dis, mais je croyais que vous aviez dit que vous aviez des jumeaux. Puis il dit, ah ouais, mais à 3 mois, le deuxième, il est mort. Puis ça semble tellement, enfin je sais pas, on est sans voix là devant. Alors il y a pas mal d'histoires comme ça, tout est assez banalisé comme ça. On dit, ah ouais, vous avez eu, je dis à une femme, mais vous avez eu 10 enfants. Puis elle est encore, je sais pas, elle est magnifique, puis elle a eu 10 enfants. Ah oui, on dirait pas à me voir comme ça que j'ai eu 10 enfants. Ben non, vraiment, je lui dis, vraiment, moi je revenais pas de la voir comme elle était. Etc. Ben oui, j'ai toujours aimé avoir des enfants autour de moi. Vous voyez, maintenant j'en ai plus que 3. Et ben, je me sens un peu vide, j'aimerais bien en prendre en pension. Alors, avec ma fille, on a accouché le même jour, elle de son premier et moi de mon avant-dernier. À l'hôpital. Bon, ça c'est de nouveau des mœurs. Bon, elle est valaisanne, puis elle a un physique de gitane, comme ça, un peu, je trouve. On est un peu sur une autre planète. Mmh. Alors, il y a des histoires comme ça.
Est-ce que tu es dans les enquêtes que tu as. J'aime pas beaucoup le terme statistique de dire dans la population que tu as enquêté, mais disons, c'est le terme. Comment ça se répartissait entre femmes, hommes, familles, personnes seules, personnes âgées?
C'était donc un quartier où il y a la moitié des gens sont des, enfin la moitié des ménages sont des ménages des familles, et puis l'autre moitié c'est des petits appartements d'une pièce et une cuisine par exemple, ou bien 2 pièces et une cuisine, qui sont occupés par des personnes seules ou des couples âgés, ou bien qui sont à l'assistance à l'assurance invalidité. Et puis alors, pour ce qui est des, évidemment dans les années 50-60, tous ces appartements étaient occupés par des familles. Mmh. Il y avait des familles de 2 enfants ou dans une pièce, une cuisine, ou 2 pièces, une cuisine. Alors, les normes de confort et d'espace se sont améliorées quand même au cours des années 70. Et actuellement, les familles sont dans les grands appartements. Mmh.
Il y a des femmes seules avec des enfants, des femmes mères.
Bon, dans ce quartier-là, pas tellement. Dans ce quartier-là, il y en a quelques-unes, mais ça se trouve qu'elle vit... par exemple, il y avait une femme seule, mais elle vivait avec son père et sa mère. Après son divorce, elle était revenue. Parce que c'est vraiment petit, hein. C'est vraiment des petits moyens. Alors, quand elle a divorcé, elle est revenue habiter chez son père et sa mère. Et puis, ils ont vécu avec ses deux enfants, elle, le père, la mère et le frère, dans un 5 pièces. Mmh. Donc, 5 pièces Genève. Tout le monde était là, quoi. Il fallait... Donc, c'est des toutes petites pièces, hein, où on entend tout. Ils se sont tous entassés là-dedans à 3 générations. Et ils ont vécu là pendant 10 ans. Mmh. Puis ensuite, les parents sont morts, elle a gardé l'appartement. Mmh. C'est des conditions qui sont assez impressionnantes pour nous. Parce que finalement, on est dans la même ville, mais on est vraiment dans une autre classe sociale, puis on ne voit pas les mêmes choses.
Puis à partir de ces entretiens, qu'est-ce que tu as pu en tirer comme, est-ce que tu as pu trouver des points que tu retrouvais dans toutes ces... Dans toutes ces familles, dans toutes les entretiens.
Oui, comme une description, un peu un portrait robot, voilà. Comme ça.
Et qu'est-ce que c'est?
C'est des ouvriers.
Le portrait type du pauvre genevois.
Donc, de cette couche d'ouvriers pauvres, c'est évidemment que les parents n'ont pas de formation professionnelle. Ils ont souvent travaillé depuis l'âge de 14-15 ans, sans arrêt. Ils sont souvent usés avant l'âge. Et beaucoup d'entre eux, vers 50 ans, ils ont des casses physiques... je pense, dans d'autres classes sociales, on les a à 70 ans. Et puis ensuite, alors leurs enfants ont moins de chances de promotion professionnelle que dans d'autres, que la classe ouvrière normale, si on veut. C'est-à-dire que il y a la moitié d'entre eux, des garçons, la moitié des garçons seulement ont accès à une formation professionnelle et aucune fille. Sur les 11 filles qu'on a identifiées, aucune n'ont fait d'apprentissage.
Donc c'est ce que tu disais avant, la pauvreté va se perpétuer, en tout cas sur la deuxième génération.
La difficulté de réinsertion, la possibilité d'être expulsé du système économique en cas de crise, évidemment, il est beaucoup plus grand. Est beaucoup plus grande dans cette couche-là de population qu'ailleurs. C'est évidemment ça le sens de la recherche, c'est de montrer comment toutes les déterminations peuvent peser quand même au départ, quoi, sur une couche sociale.
Lord, I hear
Alors voilà la fin de l'interview de Madame Gallet. Vis-à-vis de ses enfants, elle s'est débrouillée le mieux possible avec les moyens du bord. À travers les accidents et les difficultés qui ont marqué sa vie, elle présente son attitude comme celle de quelqu'un de discipliné, décidé à faire face à l'aide de consignes très strictes. Ne pas dépenser plus que ses moyens, ne pas être du genre à s'acheter des habits et ne plus savoir quoi faire à manger le week-end, ne pas manquer de prendre les enfants quand ils sont placés à la semaine, ne pas manquer un week-end, pas un, obéir à l'assistante sociale, envoyer son fils à l'orientation professionnelle pour qu'il lui trouve une place. Elle est fière de son fils parce qu'il a très bien réussi malgré un arrêt pour raison de santé. Toute la discipline du prolétariat au service de l'industrialisation de ses enfants. C'était Madame Gallet.
Aïe.
Un peu dur. C'est très discipliné, le prolétariat, je le vois.
Et le sous-prolétariat aussi. Ce sous-prolétariat
bon,
aussi.
Je trouve que c'est des gens qui se considèrent comme prolétaires et comme faisant partie de la classe ouvrière. Et je crois qu'ils ont raison de se considérer comme tels, même s'ils s'en font éjecter de temps en temps. Quoi.
Et puis tu voulais savoir, en fait, aussi dans cette recherche, s'il y avait une culture... social, si socialement ils représentaient quelque chose ensemble.
Moi, ouais, ça c'était un petit peu le point de départ aussi. Hein. Est-ce qu'en tant que couche sociale défavorisée, exclue et puis maltraitée par les services de socialisation comme l'école, l'assistance publique, l'assistance sociale et les différents services d'aide qui les traitent d'une façon beaucoup trop individualisée, est-ce qu'on peut s'attendre de leur part à une réponse, à un refus d'être individualisé, à une affirmation de ce qui les relie collectivement et de ce qu'ils ont à dire collectivement, un peu à l'exemple de ce qui se passe par exemple au Québec ou en général dans les pays anglo-saxons, il y a des mouvements d'assistés assez forts par exemple, justement parce qu'au moment où on introduit le welfare, on introduit en même temps les mœurs qui édictent que toute une partie de la classe ouvrière ne va plus être classée dans l'emploi, donc on se met à l'entretenir par l'État. Alors là, à Genève, on est un petit peu à la limite de ça. Mmh. On se demande si on va tout d'un coup entretenir une population. Alors est-ce que cette population qui est reconnue comme à entretenir ou à être entretenue, est-ce qu'elle va être d'accord avec ce déclassement, avec cette exclusion? Ou bien est-ce qu'elle va réagir? Pour moi, c'est encore une question. Quoi. Je prétends pas qu'on puisse la fermer ou l'ouvrir maintenant. Il faut attendre des événements.
Bien. Et bien, je crois qu'on va terminer cette émission sur cette question. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette population, est-ce que ces gens, est-ce que d'autres gens, d'autres couches sociales vont réagir? C'était donc le livre de Marie-Jo Glardon, « Les pauvres dans la ville », qui est édité aux éditions d'En Bas. Je vous conseille de le lire, vous en saurez plus. J'espère que cette interview vous a... Si on m'a donné l'envie de le lire, il ne coûte pas très cher, il coûte combien?
J'ai beaucoup de peine à l'écrire, alors j'espère qu'il y aura quelques personnes qui le liront.
Voilà, si on... Il ne coûte pas très cher, il coûte...
27 francs.
27 francs, vous pouvez l'avoir dans toutes les librairies de Genève, en tout cas au kiosque du boulevard. Et la librairie, l'inédite, la librairie des femmes de Genève. Alors, au revoir sur Radio Pleine Lune, à la semaine prochaine.
Au revoir.